comme les meilleurs parents du monde, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Les troubles digestifs, douleurs et dérèglements du transit peuvent perturber fortement le quotidien. Et malgré l'impact du syndrome de l'intestin irritable sur la qualité de vie, les personnes concernées peuvent rester longtemps privées d'explications comme de remèdes pour soulager ces désordres. Retard de diagnostic en raison d'examens dits normaux, d'un transit intestinal parfois irrégulier, singularité des manifestations ou des causes et degré de sévérité très variable de la maladie, ballonnement, constipation, diarrhée, difficile d'évoquer ouvertement ce type de trouble. Et le tabou qui entoure la maladie, désigné également comme une colopathie fonctionnelle, explique certainement aussi certains retards dans sa prise en charge. Alors aujourd'hui, pas de tabou, hein. Nous allons parler des différents axes de prise en charge, des traitements, des conseils pour modifier certaines habitudes, éviter le stress, favoriser l'activité physique, identifier si certains aliments nous font du bien, quels autres viennent désorganiser l'harmonie de cette machinerie complexe et souvent mal connue qu'est le tube digestif, colopathie fonctionnelle, syndrome de l'intestin irritable. Et pour poser vos questions, la page Facebook de l'émission et notre numéro 33 84 22 75 75. Ce syndrome de l'intestin irritable auquel vous avez consacré un ouvrage très complet, professeur Jean-Marc Sabaté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny en région parisienne, chercheur à l'INSERM, cofondateur et président du conseil scientifique de l'association des patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable. Et votre livre, eh bien, il s'intitule « Intestin irritable, les raisons de la colère ». Il est publié aux éditions Larousse. Nous retrouverons tout à l'heure en ligne du Burkina Faso le professeur Roger Sombier, gastro-entérologue et pathologue à l'hôpital Yelgado Ouédraogo de Ouagadougou. En fin d'émission, on va retrouver Frédéric Tanji, chef du laboratoire de génomique virale et vaccination à l'Institut Pasteur, directeur de recherche au CNRS. On va parler avec lui de l'actuelle flambée des cas de rougeole en Europe et sa résurgence dans 4 pays européens, dont le Royaume-Uni.
Priorité santé sur RFI.
Alors, professeur Jean-Marc Sabaté, au cours de cette émission, on va employer plusieurs termes, hein, colopathie fonctionnelle, syndrome de l'intestin irritable. Est-ce que ces deux noms recouvrent exactement la même chose?
Alors, oui, ça recouvre exactement la même chose. Et finalement, ça signifie, quand le nom d'une maladie change, qu'il y a un problème dans la compréhension, dans les mécanismes, où il y a eu aussi d'autres noms dans le passé, colite spasmodique. Et donc, c'est exactement la même chose aujourd'hui pour désigner cette maladie.
Est-ce que finalement, quand le nom d'une maladie est composé, comme c'est le cas de syndrome de l'intestin irritable, ça dit déjà beaucoup de choses sur sa façon de l'appréhender. Ce n'est pas un tout, ça n'a pas un nom comme on va dire la grippe, la rougeole, ces maladies qui sont on va dire globales. Là, on va vers plusieurs axes, c'est comme fragmenté.
Je n'y avais jamais pensé, c'est une très bonne remarque. Effectivement, ça relève peut-être de quelque chose de plus complexe, plus difficile à désigner avec un seul mot.
Et c'est lié justement à ce que vous expliquez longuement dans votre ouvrage, professeur Sabaté, sur le ressenti des patients, des malades, leur sentiment d'une certaine façon de ne pas être écoutés, finalement pris au sérieux, en dépit de leur souffrance, on leur dit « ça va passer, tout le monde a mal au ventre » ou alors « c'est dans vos têtes ». Finalement, on ne les reconnaît pas comme patients.
Vous avez raison, et finalement cette non-reconnaissance, hein, nous on avait fait une enquête avec l'association où 2/3 des patients avaient entendu de la part du praticien qui était en phase 2 où on leur avait fortement suggéré que c'était dans la tête. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a appelé l'association la psy, puisque quand on vous dit que c'est dans la tête, faut aller voir la psy, l'association des patients souffrant du syndrome de l'intestin irritable.
Comme quoi on peut avoir l'intestin irritable mais encore un certain sens de l'humour. Alors en France, les femmes sont plus touchées que les hommes. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Et j'ai dit en France parce qu'on le comprend dans votre livre, c'est pas le cas partout.
Alors, c'est pas le cas partout, mais c'est aussi vrai en Europe et dans les pays comme le nôtre. C'est un peu moins vrai en Asie, la prédominance féminine. Alors, peut-être il y a des facteurs culturels liés finalement à l'exposition médiatique de cette maladie dans une certaine presse, ce qui fait que les gens se reconnaissent plus facilement, osent plus facilement peut-être aller consulter et donc apparaissent un petit peu en surnombre dans les enquêtes. Il y a aussi des facteurs peut-être différenciants dans les mécanismes. On a dit que l'intégration au niveau du cerveau des messages n'était pas tout à fait la même. Mais finalement, il n'y a pas de raison si évidente que ça pour qu'il y ait deux tiers de femmes et un tiers d'hommes dans cette maladie.
Alors, syndrome de l'intestin irritable, ça peut être plus ou moins grave, ça peut plus ou moins altérer la qualité de vie. Justement, quelles conséquences, quand est-ce que les choses deviennent particulièrement compliquées?
Alors ça, c'est à chacun de le définir finalement par rapport à sa vie et l'impact que peut avoir la maladie dans sa vie personnelle, mais aussi sur son travail, peut-être sur ses projets. Et l'altération de qualité de vie finalement qui avait été montrée dans des études notamment réalisées aux États-Unis où ils avaient dit que ça pouvait être aussi sévère qu'une dépression sévère, que des gens qui ont des maladies digestives, voire même que des gens qui ont une insuffisance rénale et qui vont en dialyse 3 fois par semaine. On imagine que leur vie n'est pas facile, notamment pour les déplacements, pour les vacances. Et bien dans certains domaines de la qualité de vie, la colopathie fonctionnelle peut produire des altérations du même niveau, voire supérieur. Alors ça s'explique quand les symptômes sont très fréquents, quand ils peuvent être très gênants, par exemple certaines personnes qui ont des épisodes de diarrhée qui leur laissent très peu de temps pour trouver des toilettes, ils hésitent même à se rendre sur leur lieu de travail, ils ont une espèce de phobie et donc ça c'est très gênant. Les douleurs abdominales quand elles sont très importantes, ben finalement vous n'avez pas envie d'avoir une vie sociale très développée. L'alimentation, on en parlera sûrement, mais qui pose problème pour 2/3 des gens, et donc finalement avoir une vie sociale peut être difficile dans cette maladie, en dehors même d'avoir une souffrance qui est très variable suivant les individus.
Et les symptômes peuvent diverger, certains ont certains de ces symptômes, donc vous avez parlé de la fréquence des selles, des diarrhées, ça peut être des ballonnements, ça peut être des spasmes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe de la maladie, professeur Sabaté?
Alors, il n'y a pas grand-chose d'autre comme symptômes digestifs.
La constipation également.
Voilà, la constipation, on l'a cité. Donc, la constipation, les ballonnements, la diarrhée et les douleurs abdominales. Normalement, les douleurs abdominales font partie du diagnostic. Les définitions ont un peu évolué auparavant, on parlait d'inconfort, mais ils ont préféré finalement supprimer ce terme pour que les chercheurs, notamment dans le monde, le terme inconfort ayant parfois des significations différentes, pour que tout le monde s'accorde, on a laissé que le mot douleur, mais ça peut aller du simple inconfort quand même, jusqu'à des douleurs très importantes.
Est-ce qu'il y a une confusion entre ce syndrome de l'intestin irritable, professeur Sabaté, et d'autres pathologies qui affectent le système digestif?
Alors, la confusion, elle peut être dans l'esprit des malades, puisque souvent, on ne leur donne pas de nom de maladie. Même quand on leur fait des examens, on leur dit « vous n'avez rien ». C'est souvent comme ça que se termine la consultation. « J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'avez rien », mais on leur dit pas de quoi ils souffrent. Et parfois aussi, dans l'esprit des médecins, tant qu'ils n'ont pas fait certains examens, les examens ne servant qu'à éliminer d'autres maladies qui peuvent produire les mêmes symptômes et qui peuvent être, par exemple, des maladies comme les maladies inflammatoires du tube digestif, la maladie de Crohn, aussi... Parfois, des dérèglements hormonaux peuvent produire de la diarrhée. La maladie cœliaque aussi, qui pose problème avec le gluten, peuvent donner les mêmes symptômes. Donc, on fait quelques examens pour éliminer, mais aucun examen pour prouver qu'on a cette maladie. Et c'est ça qui pose le problème.
Alors, du côté de ces examens, ça va être prise de sang et endoscopie.
Prise de sang, effectivement, assez simple, et endoscopie.
Alors, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs. Ils sont nombreux à nous appeler pour justement évoquer leur rapport avec, on va dire, leur ventre, leur estomac, leur tube digestif. Comment ça se passe? Tout de suite, on leur donne la parole. On part tout d'abord pour le Congo-Brazzaville, Pointe-Noire précisément, avec Everly qui est en ligne avec nous. Bonjour Everly.
Bonjour Caroline.
Nous sommes à votre écoute, allez-y.
Bon, ma question était, en fait, c'est plus lié avec mon fils. Déjà, moi, je fais la colopathie et mon conjoint aussi. Depuis plusieurs années, on essaie d'avoir une bonne alimentation parce qu'on on s'est rendu compte des aliments qui nous dérangent, qui nous créent des... Moi, je suis tout le temps ballonnée, il y a des gaz et tout. Et c'est surtout lorsque je prends des boissons gazeuses et je digère mal la viande aussi. Et il y a le petit qui a 2 ans qui présente des signes de colopathie, qui fait des selles très très dures. Donc c'est des constipations. Quand il n'est pas constipé, il fait des selles très dures. Et on est allé voir le médecin qui l'a mis 2 fois sous micro-relax. Ça l'a soulagé et il nous a dit quand même qu'il fallait lui... Il fallait voir son alimentation, donc on lui donne des fruits et des légumes. Voilà, donc moi, la question, c'est surtout de savoir si c'était héréditaire.
Et Verly, moi, j'ai juste une question. Votre fils, donc, il a 2 ans, il a une alimentation diversifiée. Est-ce que c'était le cas aussi dans la première année de sa vie? Vous l'avez allaité? Il avait une digestion normale à ce moment-là?
Bon, alimentation mixte, hein. C'était le biberon et l'allaitement maternel.
Les deux. Et à ce moment-là, il avait une digestion comment?
Ah, il digérait pas bien.
Il digérait déjà pas bien.
Hein, déjà
de nature.
Dès 6 mois, oui.
Professeur Sabaté, qu'est-ce que vous pouvez dire à Everly, hein? Vous n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à lui poser pour compléter.
Oui, bonjour Everly. Alors, pour l'enfant de 2 ans, c'est plus difficile de parler de colopathie fonctionnelle. D'ailleurs, le nom de la maladie est pas forcément le même. Bon, ça, c'est des histoires plus de médecins que de patients. Mais chez les enfants, et notamment à cet âge-là, on a plus souvent une constipation qui peut aussi, quand elle est importante, donner des douleurs et des ballonnements. La constipation est très fréquente chez l'enfant, hein, ici aussi. Et donc, les traitements qui peuvent marcher en dehors de modifier l'alimentation, ce qu'elle a déjà essayé de faire, peut-être en enrichissant l'alimentation en fibres, s'il le tolère bien. Moi, je suis pas pédiatre, donc je vois rarement des enfants de 2 ans. Aussi, il y a une question parfois d'habitude, d'éducation, alors sans stresser les enfants et les surveiller quand ils sont, par exemple, sur le pot, mais de tous les jours, et notamment, c'est plus facile, après un repas, d'aller aux toilettes. Il y a des réflexes qui se mettent en place qui favorisent le fait d'aller à la selle, et donc peut-être rappeler à l'enfant d'y aller s'il oublie, parce qu'ils peuvent préférer jouer ou faire d'autres activités, mais je suppose déjà qu'Everly le surveille pour savoir s'il va régulièrement ou pas à la selle. Voilà. Après, peut-être il développera, ça peut arriver, que des enfants qui ont déjà des symptômes deviennent à l'âge adulte colopathes.
Avec cette question justement sur l'hérédité que pose Everly.
Alors, l'hérédité, elle se transmet pas de manière aussi simple que dans d'autres maladies vraiment génétiques. Là, on parle, il y a des facteurs génétiques qui ont été trouvés, mais qui sont plus des facteurs qui expliquent des bonnes ou des moins bonnes réponses à certains traitements, et ça se transmet pas en ligne directe de la mère à l'enfant. Maintenant, comme c'est une maladie très fréquente, il arrive au sein d'une même famille que plusieurs membres soient atteints, et notamment, il y a d'autres facteurs qu'on partage en famille, l'alimentation, donc, qui peut provoquer des symptômes identiques, il y a aussi l'éducation, qui peut avoir certains retentissements, on peut apprendre des conduites, finalement, la mère est constipée, l'enfant aussi, tout le monde se plaint, et ça peut renforcer certains symptômes.
Alors, j'avais une autre question, Everly, parce que quand vous nous expliquez, vous mangez des fruits, ça vous soulage, ça veut dire que finalement, oui. Ces fruits ou ces légumes, vous ne les mangez pas tout le temps, pas régulièrement, c'est juste quand vous en avez besoin?
Non. Bon, c'est pas régulièrement, j'avoue. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien, oui.
Et vous avez pourtant eu des conseils de la part d'un médecin qui vous a dit qu'avec une alimentation plus équilibrée, avec plus d'apport en légumes et en fruits, vous auriez un transit qui serait peut-être plus harmonieux, non?
Oui. Et vraiment, ça s'est vérifié. Lorsque je prends les fruits, les légumes, de l'eau au réveil, ça m'aide. Et surtout quand j'évite les boissons gazeuses.
Éviter les boissons gazeuses, c'est aussi un conseil que vous donnez à vos patients,
alors,
professeur Sabaté?
Souvent, les gens les évitent, les boissons gazeuses, mais il n'y a pas trop de raisons finalement. Et quand les gens se plaignent d'autres symptômes qui sont plutôt des symptômes liés à l'estomac, comme les éructations, la lenteur de digestion, la pesanteur au niveau de l'épigastre, en fait, pour les boissons gazeuses qu'on prend, c'est pas ça qui fait qu'on va être ballonné. Contrairement à une croyance que peuvent avoir les gens. Par contre, ça peut favoriser les éructations et une gêne plutôt au niveau de l'estomac.
Mais les gens font un peu la confusion entre les ballonnements et les éructations peut-être aussi.
Même la digestion, le sens du mot digestion n'a pas la même valeur pour les médecins souvent que pour les patients où ça a une signification beaucoup plus large.
Voilà pour ces conseils, Everly. On vous souhaite une excellente journée à Pointe-Noire. On va partir tout de suite pour la Suisse, pour Lausanne. Nous sommes en ligne avec Bamoussa. Bonjour Bamoussa.
Bonjour Caroline.
On est à votre écoute, le professeur Sabaté vous écoute, allez-y.
D'accord. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors, j'ai des soucis, de sérieux soucis de transit depuis, on va dire en gros, bientôt une dizaine d'années. Alors, ça a commencé quand j'ai consulté mon médecin, il a commencé par me donner du... Enfin, je peux citer des noms, des médicaments.
Oui, allez-y, je pense que le professeur expliquera derrière.
D'accord. Pour ça a commencé par du Lax-Oberon. Ensuite, ce n'était pas aussi efficace, donc il a ajouté du colosan, genre Agiolax, quoi.
Mmh. Alors, ce qu'on comprend bien, excusez-moi, je vous coupe, Bamoussa, parce que vous n'osez pas dire le mot, mais ça veut dire que vous êtes constipé, c'est bien ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve hein, quand on parle de ce type de problème, de trouble ou de maladie, c'est que les gens n'osent pas employer les mots. Là, on a dit, on parle sans tabou, sans non plus rentrer dans des détails trop intimes, parce que ça ne nous regarde pas. Mais en tout cas, ce que vous nous décrivez, c'est une constipation chronique, c'est ça?
Une constipation chronique, et là, pour y aller... Depuis quelques années, il est rare que je puisse aller aux toilettes sans médicament. Mm-hmm. Et ça devient très inquiétant parce que là, je suis à, on va dire, 3 à 4 médicaments à la fois, pour pouvoir y aller deux fois par semaine.
Et vous avez le sentiment d'être dépendant de ces médicaments, c'est ça?
Oui. Alors. Oui, je peux maintenant le dire parce que les quelques rares fois où je vais aux toilettes sans ces médicaments, c'est des cas de forte émotion ou des cas de d'indigestion.
D'accord. Ouais. En gros, c'est quand vous ne vous sentez pas très bien que vous allez aux toilettes naturellement.
Voilà, c'est ça.
Professeur Jean-Marc Sabaté, il y a une double question qui est posée. Est-ce que la dépendance aux laxatifs existe? Et deuxièmement, si c'est le cas, finalement, est-ce que c'est grave?
Alors, il y a des gens qui prennent des laxatifs pendant des années, qui, quand ils les arrêtent, se retrouvent dans le même état, donc ce qui crée cette dépendance, mais c'est pas une dépendance comme pour certaines drogues. Hein. Si les gens vont mieux, en général, ils peuvent arrêter ce type de traitement. C'est pas grave en soi, ça dépend aussi du type de laxatif qu'on prend. À un moment, on a accusé certains laxatifs dits irritants, qui se prennent facilement quand les gens sont bloqués, on va dire, pour aller à la selle le lendemain. Ces laxatifs qui peuvent donner aussi des douleurs ont été accusés de pouvoir créer progressivement une modification, une altération des cellules nerveuses qui commandent le transit. Donc ceux-là, on ne les recommandait pas de manière chronique, on essaye d'éviter aussi, mais des laxatifs, par exemple, qu'on appelle des laxatifs osmotiques, qui créent un appel d'eau et un effet chasse d'eau, peuvent être pris toute la vie sans altérer quoi que ce soit. Là, dans le cas de Bamoussa, moi je dirais, c'est rare qu'on ait à prendre plusieurs traitements en même temps, s'ils sont pas efficaces. Il y a parfois aussi un problème de posologie, de dose, et il vaut mieux prendre le même traitement s'il a une certaine efficacité à une dose plus forte que mélanger comme ça des médicaments qui agissent peut-être sur des mécanismes différents et qui, globalement pris ensemble, n'ont pas de grande efficacité.
Voilà pour ce conseil, Bamoussa. On vous souhaite une très très bonne journée à Lausanne. On va partir tout de suite pour le Togo, pour Cara, avec Steven qui est avec nous. Bonjour Steven.
Bonjour Caroline, bonjour professeur.
Alors Steven, je vous entends un peu loin, rapprochez-vous peut-être de l'appareil pour qu'il n'y ait pas ce sentiment d'écho. Donc le professeur Sabaté est à votre écoute, on écoute votre question.
D'accord, depuis déjà près de 2 ans, j'ai constaté que j'avais des problèmes des troubles digestifs. Mmh. Le premier constat que j'ai fait, c'est que j'ai eu une sensation d'odeur moisie dans la gorge. Et cela est accompagné de ballonnements qui m'indisposent tout au long de la journée. Cette première remarque a été faite après la prise de produits laitiers ou de produits sucrés. Après, il y a eu constipation occasionnelle, et cela même en dépit du fait que je cours ou que je marche en moyenne 10 km 3 fois par semaine. Le deuxième constat, c'est que tous ces troubles sont généralement sentis en période de congé ou de vacances. Je rappelle que je suis étudiant et que pendant ces périodes, je suis à la maison. Donc après, j'ai été consulter un médecin généraliste qui m'a conseillé de faire des analyses. J'ai d'abord fait les CLKOP et ensuite les transaminases. Sauf que ces analyses n'ont pas confirmé les troubles digestifs dont je souffre. Donc, ce qui m'amène vers vous pour pouvoir savoir si je pourrais trouver d'amples explications à mon problème.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à Steven, professeur Sabaté? Il nous a bien expliqué. Alors, on ne peut pas lui dire que c'est la sédentarité parce que il fait beaucoup d'exercices. En tout cas, il est très à l'écoute de son corps et de ce qu'il ressent, son inconfort. Quand vous dites, quand je mange des produits laitiers, les choses ne s'arrangent pas. Est-ce que vous avez essayé en arrêtant, voir s'il y avait une modification de votre situation, Steven?
Oui, j'ai arrêté. Mais lorsque j'en reprends, par exemple, du lait, ou bien des produits, bon, de la bouillie avec du sucre, il y a cette sensation d'odeur moisie qui vient.
D'accord.
Plus tard que ce matin, j'ai pris de la pâte de maïs avec de la sauce tomate, et j'ai ressenti encore cette odeur moisie-là. La semaine passée...
Oui.
Je peux continuer?
Oui, oui, allez-y, mais il va falloir qu'on vous réponde quand même. Allez-y.
D'accord. Toute la semaine dernière, j'ai ressenti... un ballonnement constant accompagné de rejet de gaz, ce qui m'en disposait totalement.
Ben on comprend bien. Professeur Sabaté, qu'est-ce que vous pouvez dire à Steven?
Alors, pour la première question, qui était celle des examens qui ont été faits, je crois qu'il faut le rassurer, parce que ça paraît plus inquiétant si on parle de maladie du foie. Il n'y a pas de lien, normalement, entre des maladies du foie et la colopathie fonctionnelle. Donc ça, c'est la première chose. Et donc que les examens, les transaminases qu'il a réalisés soient normaux, c'est finalement ce qu'on attend. Ou alors, il y a une autre cause d'élévation de ces transaminases, mais pas un lien en tout cas avec la colopathie. Ça, c'est la première chose. Les odeurs de moisie font pas partie des symptômes habituels. C'est peut-être lié, alors là, si c'est ressenti dans la gorge, il faut voir aussi si d'autres personnes le sentent en fonction des aliments. Il peut y avoir plutôt des problèmes... bucco-dentaires et on a accusé parfois quand on a des remontées d'acidité que ça pouvait donner une mauvaise haleine ou ce type de problème, mais c'est très débattu et c'est plus des problèmes on va dire de la sphère ORL et bucco-dentaires. Pour les conseils, alors pour les régimes, globalement, effectivement, il y a des gens qui se disent intolérants aux produits laitiers, mais la reprise même lors d'un repas peut déclencher des symptômes. C'est pas forcément si on peut arrêter pendant longtemps aller mieux et puis en reprendre et dès le premier jour de la reprise avoir des symptômes plusieurs heures après ou donc voilà, donc ça c'est pas anormal en soi. Après faut voir s'il peut ou pas se passer de ce type de produit. Il y a aussi d'autres produits qui favorisent les fermentations et les ballonnements, notamment ce qu'on appelle les food maps, peut-être on en dira un mot tout à l'heure.
On va en dire tout à l'heure un mot, oui, effectivement. Steven, j'avais une dernière question. Est-ce que vous avez pris des produits, vous parliez de ces ballonnements et d'une forme de constipation, vous avez pris des produits pour essayer de régulariser tout ça? Réguler
non,
tout
à
ça
défaut de, non, à défaut de produits, on m'a plutôt conseillé de beaucoup m'hydrater, de prendre beaucoup de fruits et de toujours continuer à performer dans mes activités sportives.
De continuer à plus sur vos habitudes de vie, ce qui sont aussi des bons conseils.
Alors, pour l'activité sportive, effectivement, hein, jusqu'à peu, on conseillait d'avoir une activité physique, mais il n'y avait pas de niveau de preuve. Deux études suédoises ont montré qu'avoir une activité physique pouvait améliorer la qualité de vie des gens qui avaient la colopathie, et ça a même été montré à 5 ans, les mêmes patients étant suivis à nouveau. Pour l'hydratation, là aussi, un peu une légende, aussi bien pour la constipation que pour la colopathie fonctionnelle. On s'hydrate normalement, évidemment, il ne faut pas économiser la boisson, mais il n'y a pas de raison de se surhydrater pour améliorer son transit, les ballonnements ou même la constipation.
Voilà Steven pour ses conseils. Excellente journée au Togo. On va prendre un dernier auditeur qui nous appelle d'Abéché au Tchad. C'est Haroun. Bonjour Haroun.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute, le professeur Sabaté est à votre écoute. Allez-y, posez votre question.
Ma question est de savoir... s'il existe les mêmes symptômes communs entre les hémorroïdes internes et les intestins irritables. Parce que, à ma grande surprise, je suis parti au Maroc. J'ai fait des analyses. Avant, je croyais que j'avais les colopathies fonctionnelles. J'ai fait des examens et je n'en avais pas. Parce que j'avais les mêmes signes. J'ai le ballonnement, j'ai chronique, accompagné de constipation aussi chronique. Et j'ai mal aussi, j'ai des douleurs à l'abdominal. Donc, de là, les signes, les trois signes constituent également
Vous êtes toujours... Oui, Haroun, vous êtes avec nous. Alors, je vais essayer de résumer, hein, parce qu'on s'était entretenu un petit peu avant l'émission avec... l'équipe s'est entretenue avec vous. Donc, vous avez d'abord eu un premier diagnostic de colopathie fonctionnelle. Puis, comme les choses n'allaient pas mieux, vous avez vu un spécialiste au Maroc. Et là, il vous a dit ce serait plutôt des hémorroïdes internes. Donc, professeur Sabaté, est-ce qu'on peut justement peut-être même avoir les deux ou avoir l'un ou l'autre ou voilà, une confusion, je ne sais pas.
Alors, je pense qu'il a... Les symptômes qu'il décrit sont ceux de la colopathie fonctionnelle. Hein. Les hémorroïdes internes, je vais vous faire une confidence, j'en ai aussi. Et tout le monde en a. Hein. Après, elles se manifestent éventuellement par certains symptômes qui sont plutôt des saignements. Voilà, mais anatomiquement, tout le monde a des hémorroïdes internes et ça ne donne pas les symptômes dont se plaint Haroun. Donc, il a bien raison, il a une colopathie fonctionnelle. Après, quand on vous fait des examens, on peut décrire des lésions. Ou des choses normales, mais ça ne met pas la responsabilité de vos problèmes sur ce qu'on a vu qui peut être normal ou même anormal. S'il a des hémorroïdes internes, peut-être qu'elles étaient un peu trop rouge vif, un peu irritées. C'est peut-être ce qu'a voulu dire le gastro-entérologue qui l'a vu, mais il a une colopathie fonctionnelle.
Mais en tout cas, ce qu'il décrit, Haroun, c'est d'avoir des douleurs peut-être même à un point d'en avoir des migraines, donc douleurs extrêmes.
Alors, là, il y a deux points. Les migraines peuvent être associées, d'ailleurs par certains mécanismes, à la colopathie fonctionnelle. Et puis, il y a parfois ce qu'on appelle des migraines à manifestation digestive. Je ne sais pas s'il est migraineux de base, mais c'est plutôt une association retrouvée assez fréquemment, plutôt que un lien entre les deux. Après, si on a des douleurs très fortes, ça fatigue, et peut-être que c'est suite à ces problèmes de fatigue qu'il se sent plus migraineux ou qu'il a des maux de tête.
En tout cas, on va souhaiter une bonne journée à Haroun qui est au Tchad. On a une autre question du Tchad, la question Facebook. C'est Innocent qui réside à Djamena qui demande « Est-ce que le fait de manger à des heures tardives peut causer des troubles digestifs ?» Là, on va un petit peu sur l'emploi du temps, la répartition des repas. C'est aussi une question. On va parler, bien sûr, de ce qu'on mange, mais il y a aussi le moment où l'on choisit de manger. Est-ce que ça peut changer les choses ?
Alors, on a très peu de données là-dessus. Hein. C'est un fait intéressant. D'ailleurs, nous, on l'a étudié dans une enquête précédente avec l'association des patients. Mais les conditions de prise du repas, le temps qu'on s'accorde pour prendre un repas, et peut-être aussi le nombre d'heures pendant lesquelles on n'a pas mangé, peuvent peut-être provoquer plus ou moins de symptômes. C'est très peu étudié. Là, nous, on a une enquête en cours d'analyse où on a ce type de données. On va regarder effectivement, là, on pourra regarder l'intervalle entre deux repas, la durée et les conditions de prise au travail ou seul, entre amis. Ça peut avoir un impact, mais il n'y a quasiment pas d'études pour répondre à cette question.
Alors, on parle, professeur Sabaté, d'une maladie chronique qui ne se guérit donc pas, par contre, qui se soigne avec des médicaments aussi variés que les symptômes. Ces médicaments, ils sont vraiment efficaces? Ils sont accessibles?
Alors, les médicaments sont efficaces pour certains. Ça dépend des patients. Il n'y a pas un traitement qui convient à tous les patients. Ça dépend un peu du symptôme prédominant. Par exemple, on va évidemment pas donner des laxatifs à quelqu'un qui a déjà la diarrhée.
On va éviter, hein, oui.
Donc, on va éviter. Donc, il faut adapter le traitement aux symptômes de la personne, mais aussi à la fréquence des symptômes. Aujourd'hui, dans la définition de la colopathie, il faut avoir des douleurs plus d'une fois par semaine. Donc, finalement, si les traitements soulagent le patient et agissent assez vite, il n'y a pas besoin d'en prendre forcément tous les jours. On pourrait les prendre le jour où on a mal seulement, mais il y a des patients qui ont mal 6 jours sur 7, 7 jours sur 7. Donc, ça dépend un peu de l'intensité. Pour les traitements, je ne sais pas, on va peut-être les détailler après.
On va y revenir tout de suite, justement. Vous soulignez dans certains cas que des antidépresseurs sont prescrits. Pourquoi ?
Alors, les antidépresseurs sont prescrits, on va dire, en deuxième intention, en tout cas en France, parce qu'il peut avoir un effet, notamment sur la douleur. Alors, comme dans les autres indications des antidépresseurs, ils n'ont pas un effet immédiat, eux, contrairement, par exemple, aux antispasmodiques. Si on les prend, il faut plusieurs jours, 15 jours à 3 semaines avant qu'ils démarrent leur effet. Et le problème, c'est qu'à des gens qu'on écoute attentivement en consultation, à qui on dit « vous n'êtes pas fou, c'est pas dans votre tête », il est parfois difficile de leur dire « finalement, le traitement que je vous donne est un antidépresseur ». Donc, il faut bien expliquer cette démarche. Et on préférera, en tout cas, nous, en France, on a cette possibilité de donner des antidépresseurs sous forme de gouttes et à des doses qui ne sont pas celles utilisées dans le cadre de la dépression. Si les gens ne sont pas déprimés, on n'a pas forcément envie de modifier leur humeur si on veut juste améliorer des douleurs ou d'autres symptômes. Donc il y a ce problème avec les antidépresseurs. Ils sont beaucoup plus utilisés aux États-Unis parce qu'ils ont moins d'antispasmodiques que nous, par exemple.
Alors on entend beaucoup parler aussi du microbiote, hein, dès qu'on parle de digestion, cette fameuse flore intestinale, professeur Jean-Marc Sabaté. Qu'est-ce que l'on sait, parce que tout à l'heure vous nous parliez de ces études, qu'est-ce que l'on sait de l'efficacité des probiotiques ?
Alors, on sait que les probiotiques, qui sont en fait des bactéries qu'on ingère, pour avoir une amélioration de votre état de santé, peuvent avoir un effet bénéfique. Ça a été démontré par plusieurs études, mais il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que le probiotique, c'est comme le mot voiture, ça ne désigne pas un traitement en soi, mais plutôt une catégorie de traitement. Et donc, il y a des probiotiques, il y a vraiment une multitude de probiotiques qu'on peut acheter en pharmacie ou sur Internet. Et en fait, si le probiotique n'a pas été testé dans la maladie qui est la vôtre, en l'occurrence dans la colopathie, s'il n'a pas démontré d'efficacité, je dirais qu'il y a très peu de chances que ça vous améliore. Par contre, ça a un coût. Le coût revient aux patients pour les traitements probiotiques. Nous, ici, en France, c'est de l'ordre de 20 à 25 euros pour la plupart des traitements. Donc, si on les essaye, il faut faire comme dans les études et plutôt privilégier ceux qui ont fait les études. Hein. C'est pas du tout obligatoire, c'est des compléments alimentaires. Ils peuvent se vendre sans faire d'études. Et après un mois, en général, s'il n'y a pas d'efficacité, je pense qu'on peut les arrêter.
Et puis, les médecines alternatives.
Alors, les traitements alternatifs, notamment au premier rang, l'hypnose, hein, qui a montré une efficacité, une amélioration chez 50 à 60% de gens qui étaient en échec de traitement de première intention, comme des antispasmodiques, des modificateurs du transit. Et c'est un traitement qui est fini dans le temps. Il faut faire 5 à 6 séances de 1 heure. On peut apprendre l'auto-hypnose après pour essayer d'entretenir les résultats.
Alors, on a compris, comme c'est très singulier, on imagine que les consultations, professeur Sabaté, ces consultations, elles prennent du temps. C'est vraiment quelque chose de particulier pour ce type de troubles et de maladies ?
Alors, les consultations peuvent prendre en théorie du temps, si on accorde du temps au patient.
Au moins la première.
Mais ça dépend. Hein. Y a différentes façons de mener une consultation. Moi, effectivement, ça me prend souvent 3 quarts d'heure, voire plus. Hein. Les gens vous racontent tout leur parcours, les examens réalisés, ce qu'ils ont essayé, comment ils l'ont pris, parce qu'on peut avoir pris un traitement potentiellement efficace, mais l'avoir mal pris. Et donc, faut pas gâcher une chance d'être amélioré par un traitement. Mais la réalité, en fait, des consultations, par exemple, de gastro-entérologues, c'est que la moyenne en France, il y avait eu des enquêtes, c'était de l'ordre de 15 minutes.
Ça ne suffit pas en général.
Et donc, ça ne suffit pas en général. Et dans d'autres pays, je sais qu'au Vietnam, j'étais allé au Vietnam, mes collègues voyaient vraiment beaucoup de patients, donc ils ont très peu de temps de discuter, ils enregistrent les symptômes, ils donnent un traitement, et ça, souvent, ça s'arrête là.
Et on va partir tout de suite, peut-être une autre illustration, on va tout de suite poser la question au professeur Sombier, on va partir pour le Burkina Faso.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Professeur Roger Sombier, enchanté d'être avec vous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue et pathologue à l'hôpital Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. Alors, est-ce que le syndrome de l'intestin irritable, professeur Sombier, c'est quelque chose qui est connu par les patients au Burkina ?
Oui, juste permettez-moi de dire merci à toute l'équipe de Priorité Santé hein, pour l'excellent livre de professeur Jean-Marc Sabaté. Donc, je conseille très souvent à mes patients souffrant de colopathie fonctionnelle.
Merci.
Voilà, bonjour. Sinon, effectivement, la colopathie fonctionnelle est très fréquente dans notre pratique et effectivement au Burkina Faso.
Et est-ce que chez vous, comme on entendait tout à l'heure avec le professeur Sabaté, certains médecins ont tendance à dire aux patients eh ben, il va falloir vivre avec et on n'a pas vraiment de solution pour vous, monsieur ou madame?
Oui, c'est vrai. Nous voyons des patients en consultation. Très souvent, ils ont un parcours thérapeutique et clinique qui est bien long, avec beaucoup d'examens. Les médecins leur disent souvent que c'est chronique, il faut vivre avec et que c'est dans la tête. Mais il faut effectivement prendre le temps d'expliquer aux patients que c'est une maladie dans laquelle la psychologie intervient, mais ce n'est pas une maladie psychologique. Non.
Et professeur Sombier, on imagine que donc quand vous leur donnez cette explication, ils sont soulagés finalement d'être enfin entendus.
Oui, ça prend du temps, mais effectivement, il faut trouver des mots simples pour leur expliquer que c'est une maladie bénigne ils en souffrent réellement. Je leur dis souvent, en prenant des métaphores, que leur moteur, en fait, n'a rien, mais il fonctionne mal, et que donc on a besoin de faire certains réglages là-dessus. Et donc, quand on prend le temps de leur expliquer ça, ça soulage le stress et l'anxiété, parce que la majorité ne l'exprime pas forcément, mais ils ont une phobie, une peur d'avoir une maladie cachée, soit le foie ou bien le cancer, ou certaines maladies inflammatoires, ou voire le VIH-SIDA.
Alors donc, vous les rassurez d'un côté, mais d'un autre côté, vous leur donnez des conseils, justement, en matière d'hygiène de vie, professeur Rogier Sombier, qu'est-ce que vous dites à ces patients? Qu'est-ce qu'ils peuvent changer pour que leur quotidien soit plus simple?
Mais à ce niveau, je leur dis toujours, je leur facilite la vie, parce qu'effectivement, les patients, ils sont demandeurs de régime le plus souvent. Ils ont plein d'interdits qu'ils s'imposent eux-mêmes, et il n'est pas rare de recevoir des patients en consultation. Ils ont déjà une page remplie d'interdits sur le plan alimentaire et au niveau de l'hygiène de vie. Mais c'est simplement de privilégier les aliments qui vont favoriser le transit, les aliments qui vont éviter l'inconfort qu'ils ont. Et en fait, c'est un régime personnalisé, bon, parce qu'il y a une variabilité en fonction des individus. Donc, selon le mode de vie et les aliments.
Alors, justement, du côté du régime alimentaire, si on regarde la table des familles burkinabées, est-ce qu'il y a des aliments qui sont souvent mis en cause? Je pense, par exemple, surtout à l'absence de légumes verts ou l'absence de fruits dans certaines régions du Burkina?
Oui, clairement. Ça, effectivement, la constipation est le symptôme le plus fréquent dans la colopathie fonctionnelle. Effectivement, beaucoup de nos patients, même nos patients, reconnaissent que oui, les fruits, les légumes et tout, il faut en consommer, mais c'est difficile à avoir ou ça coûte cher, docteur. Donc, j'ai du mal à en consommer régulièrement et quotidiennement.
On a compris, donc, conseiller de manger des légumes et des fruits. Évidemment, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. On vous remercie beaucoup, hein, professeur Rogier Sombier, d'avoir été en ligne avec nous d'Ouagadougou, où je rappelle, vous êtes gastro-entérologue et hépatologue à l'hôpital Yalgado Ouédraogo.
Priorité santé. RFI.
Dernière partie de notre échange, professeur Jean-Marc Sabaté. On va parler dans un instant des régimes, de l'un d'entre eux en particulier. Mais j'ai vraiment appris quelque chose en lisant votre livre, c'est que certaines gastro-entérites débouchaient sur justement l'installation d'un syndrome de l'intestin irritable. Et dans une assez large proportion, comment ça se passe ?
Donc, effectivement, c'est une forme qu'on appelle la forme post-infectieuse du syndrome de l'intestin irritable. Et ça a été montré notamment parce qu'il y a eu des études, hein, et des faits qui ont été rapportés, comme dans un village en Espagne où tout le monde est invité à la noce, les gens mangent le gâteau, et ils vont avoir tous après une gastro-entérite. Et des épidémiologistes sont allés dans ces villages. Alors, ça s'est reproduit au Canada, des épidémies comme ça en Italie. Et ils ont surveillé l'apparition ou la disparition des symptômes, et donc ils ont vu qu'on pouvait avoir jusqu'à 20% de gens qui pouvaient développer un syndrome de l'intestin irritable. Alors, c'est des formes qui ont le plus souvent une diarrhée comme symptôme prédominant au niveau du transit, plus que des formes avec constipation. Ce qui a été dit, c'est qu'elles sont apparues comme ça brutalement, et que peut-être, hein, mais moi personnellement je trouve que c'est un peu optimiste, ces formes-là auraient tendance à disparaître au fil du temps, plus que les formes dont on ne sait pas quand elles sont arrivées. Et certains disent que 40% des gens, par exemple, auraient des symptômes encore à 4 ou 5 ans de l'épisode de gastro-entérite. Après, la prise en charge de ces malades-là est exactement la même que pour les autres patients.
Alors justement, ces conseils diététiques pour terminer cet échange, professeur Jean-Marc Sabaté, là aussi, hein, je ne connaissais pas le terme, FODMAPS, qu'est-ce qu'il y a derrière ce sigle, ce drôle de nom, un régime pauvre en FODMAPS?
Donc en fait, c'est FODMAPS, en fait le terme FODMAPS lui-même qui est un peu barbare, c'est un acronyme qui a été inventé et d'ailleurs je crois déposé par les collègues australiens qui en sont à l'origine. Ça veut dire des aliments qui favorisent les fermentations, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et des sucres alcools qu'on appelle des polyols. En fait, c'est tous les sucres qu'on prend normalement dans l'alimentation, hein, pas forcément au sens goût sucré, mais au sens biochimique, pour ceux qui ont encore des souvenirs de biochimie. Et en fait, ces sucres normalement sont absorbés dans la partie initiale de l'intestin grêle. Hein. Après l'estomac, on a l'intestin grêle qui mesure 3 à 6 mètres. Et chez des gens qui ne se plaignent de rien ou chez des patients, on peut avoir une malabsorption de certains de ces sucres. Il y en a plusieurs catégories. Et les conséquences, c'est que ces sucres continuent leur trajet dans l'intestin grêle, peuvent provoquer certains appels de l'eau comme des laxatifs qu'on utilise, et en effet qu'on dit osmotiques, et provoquent de la diarrhée. Et puis quand ils arrivent dans le côlon, où on a beaucoup de bactéries, ces bactéries mangent ces sucres, vont produire des fermentations, donc du gaz. Ce gaz a pour conséquence des flatulences, des ballonnements, et chez des gens qui ont des seuils à baisser la douleur, des douleurs. Donc douleur abdominale, ballonnement, flatulence et même diarrhée pourraient être provoquées par ces food maps.
Alors c'est très long, hein, la liste de ces aliments. Alors la question, c'est de ne pas tout éliminer. Ça m'a un peu fait penser à la procédure pour les allergies. On va éliminer au fur et à mesure, on va d'abord arrêter tout, et puis on va les réintroduire et observer ce qui se passe. C'est bien ça?
Voilà, il faut effectivement pas oublier, après une phase initiale de test où tous les interdits sont quand même à respecter pour voir si ce régime peut vous aider, il faut essayer de deviner quelles sont les catégories qui vous concernent. Fort heureusement, tout le monde n'est pas concerné par toutes les catégories, et réintroduire tout ce qui peut être réintroduit pour garder une alimentation variée, parce que ce régime peut être lassant et même isoler les patients. Pour la vie sociale, il est difficile de trouver aujourd'hui. Il n'y a pas de restaurant qui vous propose, ou très peu en tout cas, du sans food maps.
Merci beaucoup. Hein. On vous remercie beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé, professeur Jean-Marc Sabaté. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Intestin irritable, les raisons de la colère, publié aux éditions Larousse. C'est une nouvelle fois l'Organisation mondiale de la santé qui alerte. La flambée de rougeole que l'on observe ces derniers mois se poursuit, en particulier en Europe. 4 pays connaissent une résurgence de l'infection virale. 90 000 cas pour les 6 premiers mois de 2019 en Europe. C'est 2 fois plus que l'an passé. Et pour en parler avec nous, Frédéric Tanguy, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, chef du laboratoire de génomique virale et vaccination à l'Institut Pasteur. Alors, on le dit, hein, l'OMS préoccupé par la reprise de cette transmission de la rougeole. Retour donc, on dit résurgence, parce que c'est dans des pays où elle avait été carrément jugée éliminée, pas éradiquée, mais éliminée. Le Royaume-Uni, la Grèce, la République tchèque, l'Albanie. Comment est-ce qu'on explique, Frédéric Tanguy, cette résurgence?
On explique cette résurgence par l'insuffisance de couverture vaccinale dans une tranche de population en Europe qui sont les jeunes adultes, c'est-à-dire les personnes qui ont été les premières vaccinées au début des vagues de vaccination en Europe dans les années, fin des années 70, début des années 80. Et à cette époque-là, évidemment, toute la population n'a pas été vaccinée. Donc il y a ce qu'on appelle un trou de couverture vaccinale dans une population de jeunes adultes qui donc vont être eux-mêmes porteurs de la maladie, pouvoir la transmettre à leurs enfants s'ils n'ont pas été vaccinés non plus. Si on rajoute à ça la méfiance anti-vaccinale actuelle, c'est les mêmes jeunes hésitent à faire vacciner leurs enfants, et donc on se trouve effectivement dans un trou de vaccination qui peut être dangereux, parce que c'est une maladie qui flambe très très vite, extrêmement contagieuse.
On va revenir sur ce caractère extrêmement contagieux. Ici, on parle beaucoup, hein, dans les médias occidentaux, de cette flambée qui touche l'Europe ou les États-Unis dans une moindre mesure. Mais il faut souligner que des épidémies très sévères sont signalées en République démocratique du Congo, à Madagascar aussi, avec là en plus les très importantes défaillances des systèmes de santé qui accentuent encore la complexité de la prise en charge.
Absolument. Il y a deux phénomènes. Il y a la maladie elle-même, qui est extrêmement contagieuse, on va y revenir, mais il y a aussi la situation de santé du pays où ça se passe. Alors évidemment, actuellement, en République démocratique du Congo, après l'épidémie d'Ebola, en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que la rougeole a fait plus de morts que l'épidémie d'Ebola elle-même. Il y a eu environ 125 000 cas de rougeole et 2700 enfants qui en sont morts. Donc dans des pays où la santé est mal couverte, bien, les enfants sont très fragiles, et la rougeole est une maladie qui entraîne une immunosuppression, et donc les enfants font des infections opportunistes et meurent très fréquemment de pneumonie. C'est une maladie qui, quand même, a un taux de mortalité assez élevé. Même en Europe, le taux de mortalité est d'environ une personne par 1000 ou par 2000 personnes infectées, donc c'est assez élevé.
Avec tout à l'heure, vous soulignez cette question de génération, je m'excuse, Frédéric Tanguy, vous disiez des jeunes adultes, parce que quand on s'y intéresse vraiment, on voit que justement, avant les années 70, eh bien, la rougeole, c'était une grande tueuse et une grande tueuse d'enfants.
Voilà, la rougeole, c'est un virus qui tue. Il ne faut pas s'imaginer que c'est considéré comme une maladie bénigne, mais ce n'est pas une maladie bénigne, parce que quand on associe le taux de mortalité et l'immense contagiosité, on arrive à un nombre de décès extrêmement élevé. Donc évidemment, les personnes qui avaient déjà eu la rougeole quand on a commencé à vacciner dans les années 80, ces personnes-là sont protégées pour toute la vie. Donc ça ne concerne pas des personnes, on va dire, âgées aujourd'hui. Ça concerne les jeunes qui n'ont pas été vaccinés. Depuis, la couverture vaccinale a augmenté, donc les plus jeunes sont bien vaccinés, mais il y a une espèce de trou au milieu, et c'est un trou qui tombe sur une population qui, actuellement, est en méfiance vaccinale, donc qui entraîne aussi non-vaccination des bébés qui naissent.
Et pour le grand public, il y a ce mystère de la contagion. On a un petit peu l'impression qu'un virus, quel qu'il soit, eh bien, il a la même capacité de diffusion. Or, c'est très loin d'être le cas. Pour la rougeole, c'est vraiment quelque chose de très caractéristique.
Absolument. C'est, le taux de transmission de la rougeole, c'est un facteur 24 à 30, c'est-à-dire c'est environ 10 à 20 fois plus contagieux que la grippe, par exemple. Une personne qui a la rougeole est capable de contaminer une rame entière de métro parisien. On a eu des cas aux États-Unis dans les années 70 où un individu a infecté une université complète, 3000 personnes, quelque chose comme ça. Donc c'est extrêmement contagieux, effectivement. Et les pathologies associées sont sévères. Et il y a toujours un risque de mortalité relativement important.
Alors en mars prochain, en mars 2020, l'Allemagne, Frédéric Tanguy, va rendre la vaccination contre la rougeole obligatoire. Est-ce que c'est une bonne chose à vos yeux ?
Bah écoutez, on va voir, on attend un peu le recul en France, parce que depuis 2018, elle est obligatoire aussi. Il faut attendre deux, trois ans pour voir si effectivement ça a permis d'augmenter la couverture. La couverture qu'il faudrait atteindre est de 95% de la population vaccinée. Avec une telle couverture, étant donné le taux de contagiosité de la maladie, on peut bloquer la maladie. On ne peut pas l'éliminer parce qu'il y en aura toujours partout dans le monde, parce qu'on n'atteindra jamais ce taux de couverture, par exemple en Afrique, ou même en Inde, en Asie du Sud-Est, etc. Donc on ne pourra jamais éliminer totalement la maladie du monde, mais on peut la contrôler. Donc il faut un taux de 95% de couverture pour ça. En France, on est à peu près à 80%. Donc on est loin encore. Donc c'est les derniers degrés de l'échelle qu'il faut franchir, qui sont difficiles, et qu'on ne franchira pas tant qu'on va se méfier des vaccins. Donc l'obligation, on espère que l'obligation en France va avoir un effet. Si elle a un effet, on peut supposer que les pays voisins vont nous copier, effectivement.
Merci beaucoup Frédéric Tanguy pour ces explications. Je rappelle que vous êtes co-auteur du livre « Les vaccins pour les nuls » publié aux éditions First. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. Ophélie Lassène, Juliette Brault, Victor Hull, Laurent Hérault aujourd'hui. Demain, on va parler des bienfaits de la sieste pour la santé. Si vous avez des questions, des témoignages, 33 1 84 22 75 75. Et d'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.